Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 14 octobre 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane.
Au sommaire ce soir, RCA, retour au calme à Bangui, alors qu'un missionnaire polonais est enlevé à Babwa, dans l'Ouest.
Le procès de Simone Gbagbo doit démarrer ce mois-ci devant une cour d'assises à Abidjan.
Épidémie d'Ebola, le bilan s'alourdit en Afrique de l'Ouest selon l'Organisation mondiale de la santé.
Lutte contre l'État islamique, les partenaires de la coalition se rencontrent près de Washington pour remettre les pendules à l'heure.
Nous parlerons aussi du synode catholique sur la famille qui semble ouvrir la voie à un meilleur traitement des homosexuels au sein de l'Église.
Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission.
Mais d'abord, le journal.
Nous ouvrons en Centrafrique. Un missionnaire polonais a été enlevé dimanche dans l'ouest du pays. Bangui, la capitale, retrouve progressivement le calme, Idriss Fall.
C'est la direction polonaise des œuvres missionnaires pontificales qui a annoncé l'enlèvement du père Mateo Dedzic à Babwa, dans l'ouest du pays. Selon l'AFP, les ravisseurs ont indiqué qu'ils veulent l'échanger contre Abdoulaye Miskine, leur chef détenu au Cameroun. Varsovie précise que 32 missionnaires polonais travaillent en Centrafrique. À Bangui, la vie a repris après les violences de la semaine dernière. La présidente Catherine Samba-Panza a entamé une série de consultations avec les groupes politiques, l'ex-coalition Seleka, les anti-Balaka, des personnalités indépendantes et des représentants de la société civile. Selon le premier ministre Mahamat Kamoun, il s'agit de conduire la transition dans un climat apaisé, mais le Conseil national de transition, le Parlement provisoire, accuse le gouvernement de manque de transparence dans la gestion de plusieurs millions de dollars donnés par l'Angola.
La France pourrait renforcer son dispositif anti-djihadiste au Sahel et l'étendre à la lutte contre Boko Haram. C'est ce qu'a déclaré un responsable de l'armée française à l'agence France-Presse. L'opération antiterroriste Barkhane, dont le commandement est basé à N'Djamena, prend en compte une menace dans la bande sahélienne, de la Mauritanie au Tchad. Or, selon l'officier français, il y a une menace de Boko Haram dans le nord du Nigeria, en bordure du Cameroun, du Tchad et du Niger. Avec la diminution qui doit démarrer en novembre de Sangaris en Centrafrique, l'opération Barkhane pourrait voir ses effectifs augmenter jusqu'à environ 4000 hommes à la fin de l'année, contre un peu plus de 3000 actuellement.
L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest a fait 4447 morts sur un total de 8914 cas, selon le dernier bilan établi par l'Organisation mondiale de la santé ce mardi. Jacques Aristide.
L'OMS s'attend également à ce que le nombre total de contaminations franchisse la barre des 9000 dans le courant de la semaine. L'agence onusienne se dit préoccupée par la grève entamée lundi par des personnels de santé au Liberia, le pays le plus touché. Les soignants réclament le versement des rémunérations promises à cause de l'épidémie. Des agences de presse rapportent toutefois que le mouvement n'a pas été suivi par la majorité des employés, alors que ce mardi, Monrovia a menacé de limoger ceux qui refuseraient de reprendre le travail. Toujours ce mardi, un employé soudanais de l'ONU contaminé par l'Ebola est décédé dans un hôpital en Allemagne. Quant au président Barack Obama, il a de nouveau appelé la communauté internationale à redoubler d'efforts pour faire face à l'épidémie.
Et toujours au sujet d'Ebola, l'OMS pourrait déclarer la fin de l'épidémie au Sénégal vendredi prochain, puis au Nigeria lundi 20 octobre, si aucun nouveau cas n'est détecté d'ici là dans ces pays.
On vote mercredi au Mozambique pour les élections présidentielles et législatives. Le parti au pouvoir depuis 1975, le Frelimo, devrait à nouveau l'emporter, mais le retour de son ancien ennemi, la Renamo, pourrait atténuer cette hégémonie. Nicolas Pinault fait le point.
Trois candidats espèrent accéder à la présidence mozambicaine. Philippe Jacinto Niusi est le favori. À 55 ans, ce fidèle du président sortant, Armando Guebuza, a été désigné par le Front de libération du Mozambique au pouvoir. Il deviendrait ainsi le premier président mozambicain à ne pas être issu du sud du pays et le premier à n'avoir pas participé à la lutte d'indépendance. Pour son retour dans le jeu politique, Afonso de la Cama, l'ancien chef rebelle, espère lui frapper un grand coup. Le leader de la résistance nationale du Mozambique est candidat pour la cinquième fois après 2 ans passés dans le maquis. En perte de vitesse depuis 1999, il détient une des clés de l'après-scrutin, à savoir si le cessez-le-feu qu'il a finalement signé en septembre sera durable. Enfin, Davis Simango, du mouvement démocratique du Mozambique, sera le troisième homme de ce scrutin.
Du nouveau sur les cadavres du lac Ruweru au Burundi, retrouvés en août et septembre, ces corps proviendraient du Rwanda voisin, affirme le procureur général du Burundi, assurant en détenir les preuves. Ces cadavres ont été charriés vers le lac Ruweru à partir du Rwanda via la rivière Akagera, précise-t-il. Officiellement, 6 cadavres ont été retrouvés, mais des témoins assurent, eux, avoir vu passer des dizaines de cadavres.
Simone Gbagbo sera jugée à partir du 22 octobre à Abidjan. Souvenez-vous, la Côte d'Ivoire avait refusé le transfèrement de l'ancienne première dame à la Cour pénale internationale. Âgée de 65 ans, elle est notamment inculpée pour génocide après la crise post-électorale de 2010-2011. Simone Gbagbo avait été arrêtée en avril 2011 en compagnie de son mari qui refusait de reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara au scrutin présidentiel.
Et puis, une bonne nouvelle pour les réfugiés burundais en Tanzanie. Les autorités accordent la citoyenneté à quelque 200 000 Burundais, une mesure qualifiée de sans précédent par le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Installés depuis 1972 en Tanzanie, suite à un massacre ethnique au Burundi, ils ont volontairement choisi de rester en Tanzanie, explique le gouvernement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le président Barack Obama rencontre cet après-midi les chefs militaires de la coalition anti-État islamique pour évaluer leurs efforts contre les djihadistes en Irak et en Syrie. La rencontre, qui réunit les représentants de 22 pays, dont la Turquie, se tient à la base aérienne Andrews, près de Washington. Lionel Gaïma.
Selon un porte-parole du général Martin Dempsey, chef d'état-major interarmes américain, il s'agit de discuter des défis liés aux opérations actuelles et de la stratégie à adopter par la suite. Depuis lundi soir, la coalition a effectué 5 raids aériens sur les positions des djihadistes, annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres. Par ailleurs, les combats violents entre miliciens kurdes et les combattants de l'État islamique se poursuivent pour le contrôle de Kobané, une ville syrienne au sud de la frontière turc. Le président français François Hollande a averti que Kobané pourrait tomber à tout moment et a demandé à la Turquie d'ouvrir ses frontières aux renforts kurdes pour qu'ils puissent atteindre Kobané.
Au moins 21 personnes, dont un député chiite, ont été tuées ce mardi dans un attentat suicide à la voiture piégée dans un quartier chiite de Bagdad, selon les sources médicales citées par l'AFP. C'est la 3e attaque en 4 jours à Qasimiyah. Bilan, plus de 80 morts. La plupart des attentats suicides à Bagdad sont attribués à l'État islamique, souligne l'agence.
La presse turque fait état de frappes aériennes de la Turquie contre les rebelles nationalistes kurdes dans le sud-est du pays. C'est la première opération de cette envergure contre le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, depuis le début des négociations de paix il y a 2 ans. Cet incident intervient au moment où Ankara est sévèrement critiqué pour son refus de se joindre à la coalition contre l'État islamique.
Un Américain a été tué par balle et un autre blessé ce mardi dans l'est de Riyad, dans une rare attaque contre les Occidentaux en Arabie Saoudite ces dernières années. La police de la capitale saoudienne a annoncé que l'assaillant avait été arrêté. Une enquête est en cours.
Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est arrivé dans la bande de Gaza ce matin afin de voir par lui-même l'étendue des dégâts après la guerre de 50 jours. Nathalie Barge.
Ban Ki-moon a déploré la destruction massive dans la bande de Gaza qu'il a visitée pour la première fois depuis la fin de la guerre et exhorte à un effort de reconstruction rapide. Il a d'ailleurs annoncé qu'Israël avait autorisé l'entrée dans l'enclave d'un premier chargement de matériaux de construction. Lors de cette courte visite sous haute sécurité, le secrétaire général de l'ONU s'est rendu dans les zones bombardées. Critiquant Israël et le Hamas, le chef de l'ONU a condamné la mort d'environ 500 enfants. « Je suis ici avec le cœur lourd », a déclaré Ban Ki-moon lors d'une conférence de presse. « La destruction que j'ai vue en venant ici est indescriptible », a-t-il ajouté. Il a de nouveau appelé Israéliens et Palestiniens à revenir à la table des négociations pour trouver une solution. Sinon, a-t-il estimé, la violence risque de perdurer dans la région.
De nouvelles négociations du groupe 5 plus 1, Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie et Allemagne, avec le chef de la diplomatie iranienne portant sur le programme nucléaire de l'Iran, auront lieu jeudi à Vienne. C'est ce que rapporte l'agence France-Presse, qui rappelle que les parties se sont données jusqu'au 24 novembre pour tenter de conclure un accord global garantissant la nature pacifique du programme nucléaire iranien.
Vers un possible dénouement de la crise au Cachemire, de hauts responsables pakistanais et indiens se sont entretenus par téléphone. Cependant, les deux camps continuent de s'accuser mutuellement pour les récents échanges de tirs qui ont fait au moins 20 morts et des milliers de déplacés.
À Hong Kong, bref face-à-face aujourd'hui entre la police et un groupe de manifestants devant le quartier général du gouvernement. Cette situation tendue a fait suite à l'intervention des autorités pour détruire les barricades érigées depuis plusieurs semaines par les étudiants. Un responsable des étudiants affirme que le mouvement va se poursuivre malgré tout, mais sans violence.
Sachez aussi qu'en Afghanistan, deux civils sont morts aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe placée le long d'une route à Kaboul. L'attentat, qui n'a pas encore été revendiqué, a également fait 3 blessés. Un climat de violence marque le compte à rebours pour le retrait de plusieurs dizaines de milliers de soldats de l'OTAN d'ici la fin 2014. Hier, deux attaques revendiquées par les talibans ont fait 23 morts en Afghanistan. Voilà pour le journal, au micro Morgane Diriec et Chérubin Dorsil. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. On passe à la partie magazine de notre émission. Et nous partons au Nigeria. Cela fait 6 mois que plus de 200 lycéennes ont été enlevées par Boko Haram à Chibok, dans le nord-est du pays.
Plusieurs dizaines d'entre elles, il faut le rappeler, avaient réussi à s'échapper, mais 219 sont toujours portées disparues. Si cet enlèvement a suscité l'indignation internationale au printemps, aujourd'hui seulement une centaine de personnes ont tenté de manifester à Abuja. Elles ont été bloquées par les forces de police anti-émeute qui les ont empêchées de marcher jusqu'à la résidence du président Goodluck Jonathan. Le point avec notre correspondant au Nigeria, Ali Kabré.
La mobilisation, elle n'était pas très forte. C'était juste des actes symboliques. Par exemple, à Abuja, on parle donc de la réception de la prix Nobel de la paix. Au niveau de Lagos ici, c'est avec notamment la coordinatrice du mouvement Bring Back Our Girls, le professeur Obi Ezekwesili, qui a encore rappelé que la mobilisation pour la libération des jeunes filles ne va surtout pas s'arrêter, parce que ces jeunes filles-là sont très importantes pour la nation.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une sorte de lassitude? On a beaucoup parlé de ces jeunes filles. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'elles sont un petit peu oubliées.
Oui, tout à fait. C'est le sentiment général ici au Nigeria. Les gens se posent la question, pourquoi jusqu'à présent l'armée n'arrive pas à libérer ces filles-là? Et donc il y a un doute qui véritablement plane sur le fait que peut-être ces filles, beaucoup d'entre elles ne vivent même plus. Et on sait aussi, on se pose la question effectivement de savoir si, est-ce que ces jeunes filles-là, au sortir de cet enlèvement-là, est-ce qu'elles seront normales? Est-ce qu'elles seront des gens qui pourront dépasser le traumatisme subi? Beaucoup aussi savent que les terroristes avaient déjà promis de marier ces filles-là ou de les vendre.
Ici, malheureusement, il y a eu peu de gens dans les rues. Les réseaux sociaux prennent la relève du mouvement.
Oui, tout à fait. Les réseaux sociaux continuent à parler de cette affaire des filles enlevées, qu'il faut les ramener au pays. Et on a des blogs des dames qui sont très, très engagées et qui parlent, qui n'hésitent pas à parler de cette situation. Linda Ikeji, par exemple, ou bien Bella Naija. Des blogs, en tout cas, qui retracent tous les jours. Il y a même des blogs qui font le décompte des journées passées par ces jeunes filles-là dans les geôles de ces terroristes-là. Et aujourd'hui, nous en sommes au 183e jour.
Est-ce que l'ambiance est plutôt donc pessimiste ou est-ce que certaines personnes gardent espoir de la libération de ces jeunes filles?
Récemment, avec l'action de l'armée nigériane contre les groupes terroristes, notamment à Maïdougouri, progressivement, peut-être qu'on arrivera dans une situation où on pourrait retrouver ces filles-là et on espère qu'elles seront vivantes. Et surtout, ce que beaucoup de gens espèrent en plus, c'est de vraiment trouver des filles qui soient encore normales et qui peuvent reprendre le chemin des cours.
Au micro de Claire Morin-Gibourg, Ali Kabré, notre correspondant au Nigeria.
Le procès de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne, inculpée notamment pour génocide, débutera le 22 octobre devant la cour d'assises d'Abidjan. 82 autres personnes comparaîtront devant les juges pour répondre des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011.
Les accusés, tous considérés comme des proches de l'ex-président Laurent Gbagbo, il faut le dire, arrêtée le 11 avril 2011 en compagnie de son mari, Simone Gbagbo est toujours détenue à Odienné. Elle est aussi sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui l'accuse de crimes contre l'humanité. Nicolas Pineau a joint Maître Toussaint Dako, l'un des avocats de Mme Gbagbo.
La première session de la Cour d'assises qui va examiner la cause des hommes politiques qui sont en prison. Sur les 90 personnes, il y a eu 6 personnes qui ont eu non-lieu et puis une personne qui est décédée. Donc en fait, il reste 83 personnes. Y compris Mme Simone Gbagbo. Nous voulons que le droit soit dit, c'est ce qu'on peut espérer.
Et dans quel état d'esprit se trouve Simone Gbagbo ?
Physiquement, elle se sent bien, moralement aussi.
Êtes-vous déçu que ce procès ait lieu à Abidjan et non à La Haye devant la Cour pénale internationale ?
Oui, mais il faut préciser quelque chose. C'est qu'à l'origine, il y a eu plusieurs poursuites relativement à 3 cabinets d'instruction. Et c'est un aspect des poursuites qui va être jugé devant la Cour d'assises. Ça suppose qu'il reste encore d'autres catégories d'infractions, spécialement de Mme Simone Gbagbo. La CPI avait émis un mandat international, mais l'État de Côte d'Ivoire s'est opposé et a trouvé des arguments pour la faire juger ici, en ce qui concerne les crimes sont relatifs au génocide, etc.
Est-ce que vous pensez que le procès d'Abidjan sera équitable ?
Quand on connaît l'ambiance, on peut désespérer. Il suffit de citer un exemple. Hier, nous étions à l'audience de choix des jurés qui vont composer la cour. Mais quand on examine la liste des jurés et les jurés qui ont été retenus finalement, tous les noms sont les gens du Nord qui sont proches de Ouattara. Il y a 3 magistrats professionnels. Sur les 3 magistrats professionnels, il y a 2 dont les noms sont en consonance du Nord. Et les 6 autres jurés, eux tous, sont en consonance du Nord. Donc, à partir de ce moment-là, on peut apprécier. C'est un procès politique. C'est pour détruire, anéantir les adversaires politiques, c'est tout. Il n'y a pas d'autres explications. Tout est pipé depuis le début et jusqu'à maintenant. Mais attendons de voir.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
À Madagascar, calme plat au lendemain de l'arrestation de l'ancien président Marc Ravalomanana à son retour d'exil. Les habitants de la Grande Île sont dans l'ignorance du lieu de détention de l'ancien chef de l'État. Pour les dernières nouvelles, on écoute le journaliste Maïfa Rakotomalal du quotidien L'Express.
C'est le calme. Les partisans de l'ancien président se sont réunis ce matin et une partie de l'après-midi à la place Magro, où ses partisans n'ont jamais arrêté de se réunir pendant ces 5 ans durant lesquels il a été en exil forcé en Afrique du Sud.
Alors, et où se trouve en ce moment Ravalomanana?
Pour l'instant, personne ne sait. Depuis qu'il a été arrêté hier vers 14h, dans un premier temps, on a dit qu'il était transféré d'abord dans le camp de la gendarmerie, près du centre-ville même. Et puis après, c'était le noir total, le flou total. Donc jusqu'à aujourd'hui, aucune information, ni officieuse, ni officielle. Il n'y a que des rumeurs qui circulent comme quoi il a été déplacé à une trentaine de kilomètres de Tana, à une centaine de kilomètres. Il y a même récemment une information qui est tombée comme quoi il y a un hélicoptère qui s'est ravitaillé à Mahanga, la ville au nord de Madagascar. Donc il y a beaucoup de rumeurs comme ça, mais il n'y a pas de confirmation ni officielle de la part des autorités, ni officieuse de la part de la famille ou l'entourage du président.
À ce stade de l'affaire, est-ce qu'on en sait davantage sur les intentions du pouvoir ? Traduit l'ancien président devant les juridictions ?
Ben justement, non. Le chef de l'État, il a fait une déclaration à la nation. Il a motivé les raisons pour lesquelles le pouvoir a décidé d'arrêter le chef de l'État. Il a dit que c'est pour le mettre en sécurité. Ce n'est pas une arrestation pour l'emprisonner, mais pour le mettre dans un lieu sûr pour assurer de la sécurité. Pour l'instant, à l'heure où on parle, il n'y a plus eu de déclaration officielle de la part du pouvoir. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas quelle est l'intention du pouvoir. En tout cas, à Tananarive, c'est l'incompréhension qui domine sur le pourquoi de cette attitude du pouvoir pour l'instant.
Est-ce qu'il y a eu des réactions dans la classe politique, chez les autres partis d'opposition par exemple?
Pour l'instant, la classe politique, je pense qu'elle hésite. Elle hésite encore à prendre des positions parce que je pense que les politiciens attendent un peu l'évolution de la situation dans les heures du jour à venir, vers quel camp va basculer l'avantage de cette situation peut-être. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de réaction majeure à signaler. Même la communauté internationale, il n'y a pas eu de réaction jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu une réunion au siège de l'Union africaine locale ce matin où on a aperçu la plupart des représentations diplomatiques locales, mais il n'y a pas eu de communiqué. Moi, je dirais que même la communauté internationale est un peu embarrassée de la situation parce que Marc Ravalomanana a dit que toutes les grandes puissances sont au courant de sa décision de rentrer à Madagascar.
Le journaliste malgache Maïfa Rakotomalal du quotidien L'Express, joint à Antananarive par Jean-Roger Bion.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, le mariage civil et les unions homosexuelles. Après les récents développements aux États-Unis et le ton modéré du Vatican, vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h30 sur la VOA.
Le premier rapport provisoire du Synode des évêques catholiques sur la famille, qui se tient à Rome, provoque de nombreuses réactions à travers le monde, notamment par son appel à reconnaître les dons et qualités que les homosexuels ont à offrir à la communauté chrétienne.
Les évêques portent aussi un nouveau regard, Morgane, sur les personnes divorcées qui veulent renouer avec l'Église ?
Oui, certains spécialistes parlent de véritable séisme pastoral. Pour un éclairage, Timothée Donongmaï, adjoint à Rome, notre confrère Albert Mion-Zoukouta, journaliste à Radio Vatican.
Il y avait l'attente de l'Église qui elle-même souhaitait donner une réponse pastorale, une réponse à ce qu'elle qualifie de situation de souffrance dans la famille, puisque la famille est le premier noyau de la société. Et donc, quand on soigne la famille, on soigne la société suivant l'entendement de l'Église. Mais il y a aussi les attentes dans la société, où, bien entendu, aussi bien les leaders d'opinion que la société civile dans son ensemble, surtout dans le monde occidental, a cru bien faire de dire que l'instant était propice pour réfléchir aussi à des situations qui sont un tout petit peu reléguées dans les coins d'ombre dans la pratique de la foi chrétienne. Et évidemment, parmi ces situations, il y a une réalité qui est de plus en plus présente aujourd'hui en Occident, celle de la vie de personnes de même sexe, les homosexuels. Toutes ces situations de personnes divorcées, remariées, divorcées, voulant quand même renouer avec l'Église, eh bien, c'était des situations auxquelles l'Église était invitée à porter un regard. Et les premiers pas, effectivement, constituent parfois des surprises.
Et des premiers pas qui vont dans le sens d'une plus grande bienveillance à l'égard de tous ces groupes jusqu'ici marginalisés.
En tout cas, d'une plus grande tolérance, de moins de fermeté, de moins de jusqu'au boutisme, parce que, comme vous le rappeliez au début, il y a eu des pères synodaux, et non des moindres, qui sont allés jusqu'à dire que finalement l'attitude de l'Église ne devait plus être seulement celle du oui pour le oui et du non, alors jusqu'au bout.
Est-ce que tout cela ne va pas quelque part remettre en cause la doctrine ?
Alors, jusqu'ici, non. La situation des couples homosexuels, il y en a qui vivent une véritable relation de couple. Eh bien, il n'est pas question, par exemple, que l'Église leur reconnaisse le droit à être appelé mariage.
Voilà, c'était notre confrère Albert Mion-Zoukouta, journaliste à Radio Vatican, qui nous parlait de Rome.
Le monde aujourd'hui sur la voie de l'Amérique, place au sport avec Timothée Donangmaï. Bonsoir Timothée.
Bonsoir Gabi.
En football, quatrième journée en vue dans les éliminatoires de la CAN 2015.
Et c'est un feu d'artifice qu'on attend demain sur le continent. Dans le groupe A, le Nigeria, champion en titre, est en danger. Avec un point seulement, les Super Eagles sont condamnés à gagner face au Soudan. Leader avec 7 points et 0 but encaissé jusqu'ici, l'Afrique du Sud est en ballotage très favorable au moment de recevoir le Congo. Défaite à Pointe-Noire samedi, les Diables Rouges vont tenter à Polokwane de se refaire. Dans le groupe B, c'est déjà presque fini. Pour l'Algérie, une victoire ou un match nul suffirait à Blida face au Malawi pour assurer la qualification. Idem pour le Mali, une victoire face à l'Éthiopie éliminerait les Walias et propulserait presque les Aigles en phase finale.
Dans le groupe C, le Burkina Faso et le Gabon ont fait le trou.
Après leur défaite à Libreville samedi dernier, le match est très attendu par les Burkinabés qui accueillent les Panthères à Ouagadougou. Salif Kabouré.
Les Panthères du Gabon sont à Ouagadougou depuis 48 heures. Ils ne feront certainement pas cadeau aux étalons du Burkina. Certains supporters burkinabés pensent que le match est à leur compte.
Les supporters, les Burkinabés, ils n'ont qu'à sortir pour soutenir les étalons. Puisque ballon, c'est quoi? Si les supporters sont beaucoup, ça rend les joueurs aussi heureux de bien jouer proprement. Mais s'ils rentrent et jouent que les salles sont vides, ça veut dire que le pays n'aime pas les joueurs. Donc tout le monde n'a qu'à sortir. Tout le monde n'a qu'à sortir pour qu'on supporte les étalons. Les étalons, c'est nous. C'est nous. C'est pas les joueurs, c'est nous-mêmes, le pays burkinabé.
Cette supportrice des Panthères du Gabon estime quant à elle que toutes les deux équipes ont leur chance.
Pour un match, il faut un gagnant.
Ouagadougou, Salif Kabouré, la voix de l'Amérique.
Merci Salif. Alors Timothée, groupe D, Cameroun et Côte d'Ivoire veulent finir le boulot.
En s'imposant en RD Congo au terme d'un match indécis, la Côte d'Ivoire a assuré l'essentiel et peut enfoncer le clou à Abidjan face aux Léopards qui, avec 3 points, joueront leur dernière carte. Dans le même temps, le Cameroun, 6 points. Accroché par la Sierra Leone, un point, samedi, s'efforcera de se refaire face à un adversaire déjà condamné pour la qualification. Si les éléphants et les lions indomptables gagnent, les deux équipes seront qualifiées.
Et on peut dire que le suspense est à son comble dans le groupe E.
Avec les quatre équipes qui se tiennent en 2 points, cette poule est la plus indécise du lot. En tête avec 5 points, le Ghana prendrait une sérieuse option face à la Guinée, 4 points, joueuse mais souvent inefficace. Revenu dans la course grâce à sa victoire en Ouganda, 4 points, le Togo, 3 points, a pour objectif de laisser son adversaire du soir à 2 points.
Et très rapidement, groupe F, la Zambie en sursis.
Méconnaissable avec un seul but marqué lors des 3 premières journées, la Zambie, 2 points, championne d'Afrique 2012, a une dernière chance avec la réception du Niger, 2 points. Le choc entre l'usophone opposera à Praia le Cap-Vert au Mozambique.
Et le groupe G, finale avant la lettre.
Tunisie-Sénégal, ce sera comme une finale. Avec 7 points chacun, les deux équipes ne se quittent pas depuis le début de ces éliminatoires.
Et puis il faut dire aussi, Timothée, que l'attaquant brésilien Neymar a assommé le Japon 4-0 aujourd'hui en match amical au stade de Singapour.
Et oui, il a marqué à lui seul les 4 buts de la rencontre pour l'équipe du Brésil. Le joueur de Barcelone, âgé de 22 ans, a ainsi marqué 40 buts en 58 matchs avec la Seleção.
Merci Timothée Donangmaï.
On enchaîne sur la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Un album qui va faire polémique, c'est celui d'Alicia Keys. Elle annonce la couleur de son prochain album. Le successeur de Girls on Fire en 2012 ne fera l'impasse sur aucun tabou. La chanteuse a révélé que ses nouveaux titres évoqueront des sujets sur lesquels elle n'a pas l'habitude de s'exprimer. Ah, nous, on attend. En temps, on écoute Girl on Fire, une chanson d'Alicia Keys en featuring avec Nicki Minaj.
Marilyn calling me, audibly, boiling she said that she would never leave, continue to torture me, telling me to come with her, underneath my comforter, and she brought a gun with her, pills and some rum with her, took me on a
balcony. Alicia Keys qui attend son deuxième enfant, un bébé qui devrait naître au mois de décembre.
Oui Morgan, décembre prochain, ça sera la fête chez Alicia Keys. L'interprète de No One a confirmé que son disque pointera dans les bacs dans les semaines qui viennent. Rebelle, Alicia Keys a également confié que l'image lisse qui caractérise habituellement ses chansons devrait s'envoler au profit des titres qui pourraient choquer le public.
Alicia Keys featuring Nicki Minaj, Girl on Fire. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Morgane. Ciao ciao.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show. Sa s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yemi Obadjimi a dirigé la mise en onde. Un grand merci aussi à toute la rédaction. C'était Morgan Gayek.
Et Chérubin Dorsil. Alors Yemi, où est the tie? Où est la cravate? C'est le super cool de l'émission, Morgan.
À demain.
Oui, écrivez-nous sur Facebook et aussi visitez notre site internet, c'est voaafrique.com.